Actu SF, les podcasts.
Donc bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence Nature et Imaginaire, les secrets des mots, je vais y arriver, avec donc Jean Pruvot, qui est professeur émérite de lexicologie, d'histoire de la langue française à l'université de Cergy-Pontoise. Vous êtes aussi, Jean Pruvot, le directeur éditorial des éditions Honoré Champion. Depuis 1993, vous organisez tous les ans la journée des dictionnaires, vous nous en parlerez peut-être si vous le souhaitez. Vous avez écrit beaucoup d'articles et plus de 35 livres, parmi lesquels « Nos ancêtres les Arabes » paru en 2017, où vous expliquez les nombreux emprunts du français à la langue arabe. Alors aujourd'hui, on vous accueille pour votre dernier ouvrage, « Les secrets des mots » paru chez la librairie Vuibert. Et avant qu'on entre dans le détail de cet ouvrage, je voulais que vous nous parliez, s'il vous plaît, de l'anthologie des Imaginales. Donc tous les ans, les Imaginales éditent une anthologie avec un certain nombre de nouvelles. Et en fait, Jean Pruvot a écrit une nouvelle qui s'appelle « Épi naturellement », qui est en fait une nouvelle de fiction, voilà, de science-fiction même, hein, on peut le dire. Et donc voilà, je voulais que vous nous en parliez un petit peu parce que je pense que vous êtes pas mal amusé en l'écrivant. Enfin, moi, je me suis bien amusé en la lisant. Elle se passe en fait au 31e siècle. Mais voilà, vous allez nous en parler. Et bien sûr, il y a déjà un jeu de mots sur épinal, naturel, naturellement, épinaturellement. Alors, est-ce que vous pouvez voilà, nous parler un petit peu de la façon dont s'est faite cette anthologie et votre contribution à cette anthologie ?
Bah, écoutez, d'abord, je suis ravi de vous retrouver tous ici, amis des mots. On se retrouve peut-être à la radio, je n'en sais rien, puisque je fais des chroniques quotidiennes. Et quand on m'a demandé de participer à cet ouvrage, celui qui anime les épinales de cette année, bon, j'ai réfléchi un peu à ce que je pouvais faire. Et dans le fond, ce que je sais le moins mal faire, c'est manipuler, organiser les mots. Et ça m'a fait penser à ce que je donnais quand j'étais professeur en collège, et puis après en lycée. Je donnais des racines latines et des racines grecques que j'essayais d'organiser. Et puis je demandais aux élèves de créer des textes et de science-fiction. Et je me souviens qu'il y avait les sidéroclastes, les casseurs de feu, clastes qui cassent, sidères qui attaquaient, les lithoclastes, ceux qui cassent les pierres. Enfin bref, on inventait beaucoup de choses. Et ma plus grande joie, ça a été dans le couloir de m'apercevoir qu'une élève qui n'était pas d'ailleurs très très brillante généralement, mais très attentive, était en train de traiter une de ses camarades d'hémicéphale, de moitié de tête. Et je me suis dit, bon, ben, le cours a quand même réussi. Hémi, moitié, céphale, hémicéphale. Donc ça m'est resté. Alors c'est un peu ce que j'ai essayé de faire ici, c'est-à-dire dans cette nouvelle. Il y a beaucoup de mots que j'ai inventés. Et alors j'ai quand même essayé, puisque vous le savez, ma folie, et mon épouse est là pour en témoigner, et je lui rends grâce de me pardonner ce péché domestique. J'ai 10 000 dictionnaires, et même un peu plus. Et cette collection de 10 000 dictionnaires, bon, se trouve sur tous les murs. Il n'y a pas besoin de papier peint. Il y en a quand même, mais on ne le voit pas. Et donc j'ai essayé d'imaginer au 31e siècle un personnage que je voulais... comme le font les lexicographes qui ne veulent pas être trop embêtés par un masculin et féminin quand ils donnent un prénom. Donc ils prennent souvent Claude ou Dominique. Comme ça, si vous voulez, il n'y a pas trop de sexisme. Ça peut être, selon chacun, un homme ou une femme. Et j'ai inventé Éconille. Alors écho, bon, évidemment, ça fait écho avec un H cette fois-ci à l'écologie. Et Nille, vous avez pensé que ça venait de vanille, pourquoi pas après tout. Mais pour moi, c'était comme Camille, où là aussi, c'est masculin et féminin. Donc je suis parti de Éconille. Et puis après, j'ai imaginé qu'Éconille, au 31e siècle, était déjà dans l'interespace et faisait... Alors, je ne me souviens même plus des mots que j'ai utilisés parce qu'il faut les trouver à chaque fois, les inventer. Et il arrive donc sur une planète qui est peut-être la Terre et dans laquelle il y a plus de 20 siècles existait encore un très beau dictionnaire qui est le dictionnaire de l'Académie. Alors, c'est dans l'ère que je crois que j'ai appelé archéonumérique. Parce qu'évidemment, on est dans le numérique, le dictionnaire de l'Académie, vous le savez, est gratuit sur Internet, il est presque fini, il est de grande qualité, et puis il permet justement de jouer maintenant avec d'autres sources, c'est ça qui est très intéressant, il permet d'aller vers d'autres comètes, j'allais dire vers d'autres espaces. Je vous donne un simple exemple, vient de paraître, là, il se trouve que dans La Croix, je fais tous les week-ends, toutes les fins de semaine, samedi, dimanche, une chronique, je l'ai consacrée à Épinal et Imaginal cette semaine, évidemment. Mais il y a 8 jours, 15 jours, donc, je l'avais consacré à Constituteur. Je trouvais une publicité pour les arènes à Nîmes où on reconstituait la Rome ancienne avec quelques combats. Et il y avait les reconstitueurs. Ici, il y a beaucoup de reconstitueurs. Hein, on en voit et c'est merveilleux. Mais l'article évoquait les reconstituteurs. Alors, bon, ça m'intriguait un peu. Aucun dictionnaire, le petit Robert, le petit Larousse, tous ces dictionnaires qui sont de grande qualité, Millésimé ne le mettait en avant, ne le faisait exister. Mais comme l'Académie française sur Internet pousse vers l'office de la terminologie, où c'est France Terme, où c'est gratuit aussi, il suffit de mettre le mot, j'ai mis constituteur et constitueur. Je me disais, il y a quelque chose quand même qui doit être. Et j'ai trouvé tout de suite, effectivement, c'est un nouveau métier qui, depuis à peu près une quinzaine d'années, fait florès dans des manifestations comme celle d'aujourd'hui, ou bien des reconstitutions, justement. Il s'agit de reconstituer une époque. Donc, vous savez, il y a la bataille d'Hastings chaque année, il y a à Boulogne-sur-Mer, il y a Napoléon, un peu partout, il y a des grandes manifestations très agréables. Et voilà le reconstituteur. Donc, si vous voulez, quand on est dans les néologismes, quand on est dans les dictionnaires, on s'aperçoit qu'ils sont quand même aussi tournés vers l'avenir, hein, qu'il y a déjà un réseau qui s'installe. Donc voilà pourquoi j'ai raconté comment Econille, alors vous le lirez, mais Econille se retrouve très, très fier. Il n'a pas eu d'impédiment espace, c'est-à-dire un impedimenta dans l'espace, et il arrive et on va lui remettre officiellement ce dictionnaire vert sous forme d'hologramme, sous forme évidemment très moderne, mais il y en a un encore papier et on est tous émus au 31e siècle de voir encore du papier, et il repart sur sa planète avec ce symbole, un peu comme nous. Alors, je l'ai évoqué très rapidement, mais nous avons, par exemple, les serments de Strasbourg. Les serments de Strasbourg, c'est la première trace écrite de langue française. Et donc, il se trouve que c'est très important, je vais le raconter en deux mots quand même. Il se trouve que les petits-fils de Charlemagne se disputaient, bien sûr, ce territoire qui était presque une Europe. Comme souvent, quand ils sont trois, c'était des petits-fils de lits différents. Il y en a deux contre un, et il y en a un qui voulait beaucoup plus que les autres. Et donc, vous aviez Charles le Chauve, vous aviez lui le Germanique et Lothaire. Alors, Charles le Chauve, comme son nom l'indique, je ne parle pas de sa calvitie, mais comme son nom l'indique, était de langue française. Lui, le Germanique, était de langue germanique, et Lothaire était aussi de langue germanique. Lothaire voulait presque tout le territoire, et en fait, les deux autres n'étaient pas d'accord. Et Charles le Chauve et lui, le Germanique, ont d'abord livré bataille à Lothaire en 841. Ça a été une des batailles les plus sanglantes du siècle. Ils ont gagné, mais ça ne suffisait pas. Et donc, en 842, ils ont décidé de créer des serments. Ils ont fait les fameux serments de Strasbourg. Ce qui était merveilleux, c'est que c'est Charles le Chauve qui prononce en langue allemande, en langue germanique, des serments d'alliance, et c'est lui, le germanique, qui prononce en français des serments d'alliance, le tout devant les soldats, la parole évidemment ayant un grand poids devant l'ensemble des soldats qui ont donc compris. Un évêque Nithard a retranscrit tout cela, et c'est notre première trace écrite. Ça va plus loin que ça. C'est que très vite, en 843, et ça nous touche de très près avec l'Europe, très vite, ils ont compris que ces serments d'alliance militaire, maintenant, il fallait partager l'Europe. Et donc, l'Europe de Charlemagne de l'époque. Et donc, ça a été fait sur la base de la langue. Et ceux qui étaient de langue française, ça s'est appelé la Francia Occidentalis, d'où la France aujourd'hui. Au milieu, Francia Meridionalis. Et puis, bon, il y avait Orientalis. Et donc, Charles le Chauve a bénéficié de tout l'Ouest. Donc une grande partie de la France, c'était pas exactement évidemment les lignes d'aujourd'hui, puisqu'il y avait le Rhône, bon, et donc c'était surtout l'ouest, une moitié ouest de la France en gros. Et de l'autre côté, Lothaire, celui qui voulait tout. Alors, comme il avait été contraint militairement et qu'il sentait bien qu'il pouvait pas gagner contre les deux, on lui a quand même donné une bande très longue qui allait de Aix, la Chapelle, honorifique, jusqu'à Rome, très honorifique. Mais en même temps, c'était une bande assez étroite, comme une bande de lard. Et sur donc l'Est, c'était lui, le germanique. Donc en gros, Lothaire se trouvait en sandwich, si j'ose dire, au milieu et se tenait à carreau. Alors la grande chance, je ne sais pas si c'est le mot qui correspond, française, c'est que derrière Charles le Chauve, il y a eu surtout un enfant, une seule personne qui pouvait régner. Il y a eu des décès, mais en gros, ça ne s'est pas morcelé. Et petit à petit, la France s'est constituée de plus en plus fortement. En revanche, de l'autre côté, côté donc germanique, il y a eu énormément d'enfants, énormément de partages. C'est devenu une sorte de mosaïque. Et du coup, on a créé le fameux Saint-Empire germanique qui permettait d'avoir une sorte de lien, en quelque sorte politique, sur cette mosaïque. Et dans le fond, le dernier avatar, c'est le mur de Berlin. Lorsque finalement, puisque vous le savez, Bismarck a essayé dans la guerre de 70 de rassembler un peu le peuple germanique contre la France, avoir un ennemi commun, ça rassemble, bon hélas. Et ensuite, ça a été Hitler qui a tenté aussi d'annexer tous ces territoires qui parlaient la langue germanique. Et puis évidemment, on sait la folie meurtrière qui fut la sienne. Ça a abouti au mur de Berlin. Après la Seconde Guerre mondiale, et quand le mur de Berlin a été, donc à la limite, c'est là où, si vous voulez, on a la fin de cette grande aventure. Donc c'est pour ça que derrière les lignes, souvent quand on écrit, je le vois ici, puisque ma spécialité c'est pas du tout ce qui est donc science-fiction, même si j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup en lire, mais je n'en écris pas. Mais là, dans le fond, on m'a donné la chance d'en écrire 6 ou 7 pages, et je vois combien l'imaginaire de tous mes collègues et certains amis qui écrivent donc science-fiction, fantastique, fantasy. Alors moi je dis fantasy SIE parce que c'est le conseil de l'Académie française de ne pas mettre d'Y et de dire la fantasy TASIE. Bon, c'est mon petit défaut. Ont toujours cette grande imagination et un substrat historique qui est quand même solide et qui fait passer des choses de manière importante. Voilà, genre, sur cette petite nouvelle qui conclut, évidemment, qui se termine sur Épinal. Je voulais être à la gloire d'Épinal, donc ça donne les spinaliens qui sont à l'honneur.
Mais du coup, ce qui est amusant aussi dans cette nouvelle, c'est que vous envisagez que dans l'avenir, il y ait des jeux, je vous cite, biolinguistiques très appréciés intersidéralement, avec même un feu d'artifice des mots. À quoi ça pourrait ressembler, ça, un feu d'artifice des mots ?
Bon, il faut un petit peu de folie, hein, dès qu'on est dans la science-fiction, mais j'ai écrit, le livre n'est pas là, donc j'en parle sans faire de publicité, j'ai écrit il y a 10 ans ou 15 ans, je ne sais plus, Dictionnaire et nouvelles technologies. Et c'était le moment où Internet se lançait. Et j'expliquais, et j'ai été rejoint, que les dictionnaires papier vont continuer d'exister pour les petits dictionnaires qu'on emporte et puis qu'on a soigneusement sur son bureau. Mais qu'Internet était là et qu'on n'y échapperait pas, qu'il y aurait des liens de plus en plus importants, mais qu'on irait encore plus loin. On n'y est pas encore, mais rappelez-vous, ça va arriver, j'en suis presque sûr, puisque dans les jeux, ça existe. Mais bientôt, on en a les moyens, on aura des lunettes. On dira Épinal, localisation géographique, et puis vous verrez apparaître sur vos lunettes une carte. Vous direz imprimé, ça s'imprimera chez vous. Vous direz musicien Épinal, et vous aurez les musiciens d'Épinal. Enfin bref, la machine peut le faire. Alors il y a quelque chose même que j'évoquais, mais qui va vous montrer quand même que parfois j'ai une forme de folie. Pour le moment, on peut avoir le son, donc vous avez, c'est plus possible d'avoir un dictionnaire maintenant multimédia si vous avez Mozart sans entendre un morceau de Mozart. Et c'est plus possible d'entendre, je sais pas, les Beatles ou les Rolling Stones ou d'autres groupes, ça c'est mon époque, sans en avoir un extrait. Et un instrument, c'est pas possible. Gibson, un extrait d'une Gibson ou d'une Fender. Mais on a quand même que le son, que l'image. Et l'image qui bouge. On n'a pas encore l'odeur, le parfum. Mais dans le fond, rose, on est capable maintenant de recréer des parfums. Et je suis persuadé, mettons dans 20 ans, hein, puisqu'on est capable de le faire maintenant, bon, vraiment c'est artificiel, mais de dire odeur de rose. Alors il ne faut pas se tromper, parce que si on dit odeur de rose et odeur de fumier mélangé, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais en tout cas, voilà, c'est le dictionnaire de l'avenir. Je crois profondément au dictionnaire, papier bien sûr, électronique bien entendu, et pour demain. Les mots, quels qu'ils soient, il faut les expliquer. Ces racines latines, quand vous êtes avec les élèves et que vous expliquez qu'Emi veut dire la moitié, céphale veut dire tête, et que d'un seul coup, tout un univers leur arrive, parce que souvent, hélas, il y a des malades dans la maison, la maman a eu un encéphalogramme ou une céphalite, ah, céphale, la tête, oui, c'est ça, ah, microcéphale, etc. Et très vite, les enfants trouvent des mots. Alors parfois, ça manque pas de charme, parce que vous expliquez déca, qui veut dire 10, puis vous avez un élève qui vous dit, mais alors décaféiné, monsieur, qu'est-ce que c'est? Bon. Et là, on est un peu embêté. Bon, on explique, mais ça manque pas de charme. Et ça, il y aura toujours à expliquer les mots comme reconstituteur. Je donne un exemple simple, parce que, si vous voulez, dans le journal là, que je viens de... Je sais pas où je l'ai mis. Oui, donc on m'a demandé il y a quelques... Il y a 3-4 ans, de faire une chronique dans La Croix tous les samedis et dimanches. C'est un journal très lu, donc j'ai accepté. Et il faut que je donne les mots 10 jours avant. Je dois envoyer ma chronique 10 jours avant. C'est difficile parce que j'essaie de la faire en quelque sorte avec l'actualité, mais l'actualité, je ne peux pas prévoir ce qui se passera dans 10 jours. En revanche, je pouvais prévoir les imaginales. Donc là, ce n'était pas un problème. Je pouvais prévoir dans les arènes de Rome. Et puis, je me souviens, c'était l'an dernier, en juillet, juin, je me disais, mais qu'est-ce que je vais trouver là en juillet? C'était la première semaine de juillet. Et je vois qu'il y a le festival du lin dans la Somme. Alors lin, je dis, tiens, lin, L-I-N, hein, je ne sais pas trop d'où ça vient, en fait, ce mot-là. On va du latin, bon, je regarde. Et là, c'est toute une famille qui arrive. Et je m'aperçois que quand on écrit des lignes, quand on interligne, surligné, on est dans la famille du mot lin, parce que le lin était une plante que les Romains appréciaient pour divers avantages, divers avantages dont le fait que ça pouvait faire un textile. Et du coup, cette rectitude de du lin, puisque c'est une plante qui est très très droite, ça a donné pour eux le mot ligne. Ils en ont fait aussi le linge. Le linge, parce que c'était fait avec du lin, ça nous a donné bien sûr le lino. Le linoléum, bon, ça, on n'est pas pressé, mais ça donne aussi le linceul. Donc, on s'aperçoit que on prend un mot comme ça, lin, il nous vient du latin, et on s'aperçoit qu'il est très présent tout autour de nous et qu'il est encore d'une très grande vivacité. Donc, ça, c'est quelque chose qui me frappe dans les langues. Peut-être je poursuis, si vous avez des questions, mais je pense que je vais donner un autre exemple aussi. Il se trouve que je fais des chroniques de langues. Radiophonique. Donc, sur France Bleu, Île-de-France, ça va être aussi sur France Bleu National pendant l'été, sur les jeux de mots. Je vous expliquerai pourquoi les jeux de mots. Et je fais aussi des chroniques de langue, alors, pour RCF et pour Move. Alors, Move, c'est la radio des jeunes, enfin, des jeunes, de ceux qui aiment le rap. Moi, je ne suis pas trop amateur de rap, mais mon petit-fils, énormément. Et donc, je comprends qu'il y a des paroles, qu'il y a un texte qui est quand même très riche. Et alors, pendant l'été, alors, je suis Doc Dico. Donc, si vous consultez Move, Internet, vous cherchez pas Jean Pruvot, vous cherchez Doc Dico. C'est le nom qu'ils m'ont donné. Et d'ailleurs, les jeunes, qui sont très doués, hein, et des journalistes, ils ont autour de 30 ans, ils me disent, alors le Doc, ça va? Alors, on me téléphone et on me dit, le Doc, faudrait que tu nous expliques le mot bendo. Alors, je dis, j'étais en vacances fin juillet pour la rentrée. Je dis, je veux bien, la seule chose, c'est que je ne sais même pas ce que ça veut dire, le bendo. Mais je vais chercher. Alors, je cherche sur Internet et je m'aperçois qu'il y avait beaucoup de rap avec le bendo. Je suis dans le bendo. Et alors, on voit un rap, ça se passe sans doute en banlieue parisienne. On voit des jeunes qui disent, on est dans le bendo. Ils répètent ça, c'est le refrain. Alors, je cherche ce que le groupe entend par le mot bendo. Ils disent, en gros, ça veut dire sans doute, ils ne sont pas très sûrs, c'est entre nous. Ça veut dire dans la banlieue. Bon, avec ça, je ne suis quand même pas très armé, et je fouille. Alors, il se trouve quand même que ma spécialité, c'est l'histoire de la langue française, et donc, je cherche, et je trouve, voilà, la filiation extraordinaire. En indo-européen, l'indo-européen, c'est la langue qui, parlée par des tribus en Oural, peut-être en Turquie, il y a un doute. En tout cas, en Oural ou en Turquie, il y a donc plus de 10 000 ans quasiment, parlait une langue. Cette langue, et c'est très science-fiction, hein, ça peut permettre de rêver, cette langue, évidemment, comme toute tribu qui est en expansion, ils vont aller vers l'est et vers l'ouest par le défrichage, mais aussi par les conquêtes militaires et autres. Et ils vont donc arriver du côté de l'Inde, d'un côté, et du côté de l'Europe, de l'autre. Et ça va alimenter, par vagues successives, donc avec des déformations, eh bien des langues comme le latin, le grec, mais attention, le celte, le germanique. Presque toutes les langues de l'Europe viennent de cette famille de langues qu'on a appelée ensuite indo-européenne, parce qu'on s'est bien aperçu qu'en Inde, quand vous avez plus de 200 ou 300 mots qui sont exactement de même ou de presque même sonorité. Je prends le mot pitar dans cette langue indo-européenne reconstituée et dans les langues indiennes, le sanskrit. Pitar, père, pater, faveur, padre. Vous voyez bien qu'il y a une filiation et quand il y a 200 ou 300 mots comme ça, l'hypothèse a été vérifiée que c'était bien la même souche, d'où la famille de langues indo-européennes. Alors, je reviens à Bando, je ne l'ai pas oublié. On reconstitue qu'il y avait une racine, ban, qui voulait dire proclamation, officielle, dure. Ça passe en germanique, ban. Le ban passe en français, puisque au IVe siècle, on a adopté à peu près 1000 ou 2000 mots germains. Et là, ça devient le ban de la guerre, l'arrière-ban de la guerre, la proclamation de la guerre. Et donc, proclamer le ban et l'arrière-ban, convoquer le ban et l'arrière-ban, c'est-à-dire ceux qui sont tout autour du pouvoir du seigneur, sont un peu plus loin, et du coup, ça s'assimile aussi au lieu de la proclamation, donc le château, sur lequel il y a une bannière. Le seigneur est assez riche, hélas, les paysans ne le sont pas, donc il loue eh bien, un four ou un taureau banal qui appartient au ban. Donc voilà, ban, déjà, arrière-ban, et puis banal. Et puis, évidemment, banal va déboucher sur le mot d'aujourd'hui, puisque tout le monde a la même chose, donc c'est banal. Et puis, il y a ceux qui sont rechassés, ce sont les forbans, en dehors du banc. Et puis, il y a ce qui est à une lieue du banc, la banlieue. La banlieue est à une lieue du banc. Et puis, il y a le mot banc qui a un suffixe on, bandon, et on va dire qu'on est à bandon, quand on est soumis au seigneur, un peu comme quand on est devant l'inspecteur des impôts, le commissaire, même si on est innocent, on se sent bien seul. Quoi. Bon. Et donc ce mot de abandonner, eh bien, vient de là. C'est simplement que abandon a été mis en un seul mot. Ça passe ensuite, et c'est toute l'histoire de la langue française, après les Gaulois conquis par les Romains, dans les deux sens du terme d'ailleurs, parce qu'ils ont été séduits aussi par les Romains. Il y a eu presque une histoire d'amour entre les Romains et les Gaulois, malgré Vercingétorix qui s'est bien battu. Ensuite, les Gaulois, il nous reste une centaine de mots, les Romains ont quasiment installé sans difficulté la langue latine à 90%, et puis au IVe siècle, il y a eu les invasions germaniques, et là j'évoque le mot ban qui en fait partie hein, de ces mots récupérés. Mais il y a un moment donné où, après les serments de Strasbourg, j'y reviens donc, eh bien, la langue française quand même existe, et à ce moment-là, il y a les Vikings qui descendent et qui remontent les fleuves, et on ne sait pas comment faire pour se débarrasser des Vikings, et donc Charles le Simple décide de leur donner le territoire, une partie du territoire, mais en étant des vassaux, lui restant le suzerain. Et vous savez, l'histoire, c'est qu'il faut embrasser le pied du roi pour devenir le vassal. Les Vikings n'ont pas du tout envie de s'abaisser. Roland le fait faire à son voisin, qui le fait, mais il ne se baisse pas. Il prend le pied du roi et le balance dans la boue. Bon, mais le roi, il s'est avalé des couleuvres, ça ne fait rien, ils sont quand même des vassaux. Et là, alors les Normands, très vite, adoptent la langue française, très vite, la pratiquent bien, et comme ils deviennent riches, alors qu'ils étaient des nomades, c'est des sédentaires qui s'habituent très bien, ils partent en Angleterre. On est en 1066, c'est la bataille d'Hastings. Et en Angleterre, ils installent, aujourd'hui, si on a 60% de mots anglais qui sont français, et là, c'est avec des accents qu'on ne reconnaît pas, c'est à ce moment-là, avec Guillaume le Conquérant, que les Anglais appellent évidemment Guillaume le Bâtard. Alors Guillaume le Conquérant donc est là, la tour de Londres c'est exactement ça, c'est pour ça qu'elle est blanche, il voulait la différencier des autres châteaux anglais, et beaucoup de mots français passent. Vient, je ne l'ai pas oublié, vient le mot abandonner, hein, et ça donne abandoned. On prononce comme ça, j'ai longtemps dit abandonned, et puis un jour un prof d'anglais m'a dit non, mais c'est pas ça du tout, c'est abandoned. Bon, plus difficile à prononcer. Donc, abandonné, maison abandonnée, c'était déjà passé, ça a toujours été le lieu où des marginaux se retrouvent, qu'il s'agisse de jeunes, qu'il s'agisse d'artistes, etc. Donc ça donne abandoned house en Angleterre, ça passe aux États-Unis. Et vous avez à ce moment-là, ce sont des jeunes qui sont là dans ces maisons-là, donc ils abrègent, ça donne Abandoned Bando. Ça se termine par Bando. Et puis quand nous faisons nos raps, on récupère ce mot Bando. Et dans le fond, de manière inconsciente et merveilleuse, quand les jeunes disent ben, Bando, c'est entre nous dans la banlieue, et eh bien oui, c'est bien dans la banlieue, mais vous voyez le voyage qu'a pu faire le mot, qui est quand même assez extraordinaire. Bon, donc c'est pour ça que quand je suis à Move, c'est récupérable sur podcast. Alors vous me verrez dans un ton un peu différent parce qu'il faut que ça aille très vite, presque un ton saccadé, mais je raconte ces histoires et dans le fond. Alors, contrairement à ce qu'on pense, les rappeurs ont un langage un peu dru, vulgaire parfois, pour certains très poétique, mais les mots utilisés, il y a quelques mots anglais, bien sûr. Mais il y a beaucoup de mots anciens, le daron, la daronne, et beaucoup de mots d'origine aussi arabe. Donc c'est la dernière génération en fait, et comme avoir le seum qui veut dire avoir le venin en arabe et qui chez les jeunes veut dire avoir, ne pas avoir le moral. Alors parfois des gens un peu revendicatifs me disent mais on pourrait pas utiliser un mot français par exemple cafard au lieu d'un mot arabe. Je dis bah, cafard très bien, mais c'est un mot arabe aussi, donc on est d'accord. On peut avoir le spleen aussi, on peut avoir les idées noires, enfin c'est bien, on s'enrichit. Et il y avait la publicité routière qui disait si t'as pas le Sam, t'as le Sam. Le Sam étant celui qui vous ramène chez vous parce que donc il a été sobre toute la soirée. Voilà pour.
Et une tasse de café aussi, vous en parlez. Une tasse de café, c'est aussi des mots d'origine arabe.
Alors ça, j'en parle un peu dans ce livre, beaucoup dans le livre Nos ancêtres les Arabes, qui n'avait pas du tout de volonté polémique. Le titre avait été choisi avant des propos présidentiels, qui d'ailleurs se veut totalement linguistique. Il se trouve que la langue arabe est la troisième langue d'emprunt de la langue française. C'est-à-dire une fois 842, maintenant vous le savez, le noyau est là, d'un peu de gaulois, beaucoup de latin et un peu de germanique. J'y reviendrai peut-être d'ailleurs. Et ensuite, eh bien, on a emprunté. Alors on a emprunté un peu à la langue des Vikings, des mots comme creek, comme varek, comme étambo, des mots de la mer évidemment, et des bateaux. Et puis on l'a beaucoup emprunté à la langue arabe, parce que la civilisation arabe, quand elle a envahi l'Espagne, à Cordoue notamment, elle a installé la plus grande bibliothèque à l'époque connue, en tout cas celle d'Europe, où beaucoup de savants à Vicenne, à Véroès se trouvaient. Et là, beaucoup de mots savants nous sont restés, notamment évidemment algèbre. Notamment chimie, c'était alchimie, chimie, algèbre. Alors quand on est du côté du nadir, de tout ce qui concerne l'astrologie, l'astronomie, on a aussi beaucoup de mots. Et la médecine, énormément. C'est donc la langue arabe, on ne le sait pas, mais c'est la troisième langue d'emprunt quantitativement pour la langue française, après l'anglais, qui était massif au XXe siècle et qui continue. L'italien, dont on n'a pas conscience, mais il s'est totalement intégré à notre langue, et c'était à l'époque où, au XVIe siècle, nous avions des reines italiennes, et toute la cour était italienne. D'ailleurs, on se plaint du franglais, mais à l'époque, on disait pas à la cour, on disait pas la route, ni on disait la strade. Alors, on faisait comme les puissants, on utilisait leurs mots. Et donc la langue arabe, elle a véhiculé ça, plus toute une série de produits. Alors oui, vous me l'avez évoqué, je le disais tout à l'heure, les personnes qui sont passées au stand, quand vous dites tous les matins, peut-être pas tous les matins, mais beaucoup d'entre nous, je prends une tasse de café, zéro sucre et un jus d'orange, tasse, café, zéro sucre, orange, sont des mots d'origine arabe. Quand mon épouse passe le matin une jupe de coton, un gilet de satin, le satin c'est promis, c'est pas encore fait, et un pull de mohair une gabardine, non pas une gabardine, pardon, un caban pourtant breton apparemment, ce sont des mots d'origine arabe. Et vous partez faire, nous partons faire le marché, on achète des potirons, des épinards, de l'estragon, et des aubergines, et des abricots, c'est plus compliqué, mais nous parlons aussi là la langue, enfin la langue, des mots qui sont passés par l'arabe ou qui viennent directement du monde arabe. Donc cette langue est très présente et c'est poursuivi après au moment des colonisations et décolonisations, puisque quand on évoque, je ne sais pas, un bled, alors là c'est des mots des soldats. Alors le bled, le kleps, qui est devenu le klebar, etc. Tous ces mots-là sont d'origine. Le gourbi, quand ma grand-mère disait, je rentrais, j'avais quand même 18-19 ans, j'allais voir ma grand-mère et je rentrais à 9h moins le quart. Elle disait, mais t'as fait la nouba et ta chambre est un gourbi. Bon, elle n'avait pas conscience, que, moi non plus d'ailleurs à l'époque, que et nouba et gourbi, voilà encore des mots qui venaient, si vous voulez, de la langue arabe. Et puis après, ben, dans la décolonisation, eh bien, il y a eu tous ces mots, un méchoui, dans les années 1920, personne ne savait trop ce que c'était qu'un méchoui, sauf ceux qui étaient en Algérie. Bon, et aujourd'hui, un couscous fait partie évidemment de notre gastronomie. Et j'ai le souvenir de mon grand-père de Boulogne-sur-Mer, où il s'installe un premier couscous. C'est la première fois que je l'ai vu jurer, parce qu'il était très digne. Et son fils et mon père. Enfin, mon oncle et mon père l'amènent donc pour déguster un couscous, le premier couscous qui s'installait à Boulogne-sur-Mer. Et il trouve ça assez bon. Il voit de la sauce tomate là sur la table. Il en badigeonne allègrement son couscous. Évidemment, c'était de la rissa. Et là, je l'ai vu rouge et poussé un giron phénoménal. Parce qu'il avait très vite compris que ça, c'était la même couleur, mais pas tout à fait la même chose. Donc, voilà, alors ils nous ont apporté tous ces mots-là. Et puis ensuite, il y a eu aussi le rap en ce moment, les jeunes, si vous voulez, qui installent un certain nombre de mots. Alors, ma grand-mère disait c'est kif kif bourricot. Alors moi je disais c'est kif kif bourricot, sans trop savoir pourquoi aussi. Je ne savais même pas que ça venait de l'arabe. C'était de l'arabe littéraire qui veut dire pareil, pareil, kaif, kaif. Là, c'est l'arabe littéraire. Bourricot, parce que je crois qu'il y a eu une chanson qui a ajouté Anne, Bourricot, etc. Bon, kif kif Bourricot, qui après a donné, dans ma génération, c'était ses kifs. Puis après est venu le kif. Alors, le kif existe depuis dans les dictionnaires, puisque comme j'en ai 10 000, je vais pouvoir fouiller, pas dans les 10 000, mais dans ceux que je repère. Et je m'aperçois que ça existe déjà au 18e, dans le dictionnaire de Trévoux, c'est écrit le kief, et ça signifie à ce moment-là la béatitude, qui était due évidemment à des consommations de chanvre. Et à partir de là, ce mot s'installait, puis il est devenu le kif, qui avait ce sens-là au départ, puis est venu le verbe kiffer, et kiffer. Petit à petit a perdu, et c'est très bien ainsi, le sens relatif à la drogue, est devenu synonyme de en raffoler, d'aimer beaucoup, au point qu'Orsena, académicien, disait il y a peu, il faudra l'installer dans une prochaine édition du dictionnaire de l'Académie. Et alors, il y a 15 jours, 3 semaines, un journaliste du Monde m'appelle, et les journalistes, je les aime beaucoup, mais parfois ils vous donnent un travail monumental sans s'en apercevoir, parce qu'ils vous attribuent une compétence, une possibilité de répondre à toutes les questions que vous n'avez pas forcément et il vous faut travailler pour répondre. Et ils me disent, est-ce qu'on pourrait vous appeler lundi matin, un moment qui ne vous dérange pas ? Oui, très bien, bien sûr. Et je vous poserai 2-3 questions. Par exemple, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de la kiffance, de la gênance et de la malaisance. Ah, bon, je me dis c'est sympathique, mais bon, c'est pas mon vocabulaire forcément, et je sais pas trop dire grand-chose. Puis alors, j'ai travaillé, évidemment, on se lève à 4 heures et on travaille. Et effectivement, je m'aperçois que la gênance est très installée déjà dans certains milieux professionnels, j'en savais rien, dans aussi la langue des jeunes, mais dans certains milieux professionnels, que la malaisance, alors là, j'ai des armes secrètes, c'est-à-dire que j'ai des dictionnaires du 17e ou du 18e ou des dictionnaires qui redonnent la langue du Moyen-Âge, donc j'en ai un en 10 volumes avec tous les mots de dialecte, et je m'aperçois que malaisance a existé. Il y avait même la malaisibilité, il y avait des mots inimaginables aujourd'hui, mais ce mot-là a existé donc en gros au 13e et 14e siècle. Et la gênance aussi a existé en Sologne. En revanche, la kiffance, non, ça, il est récent. Et alors, j'ai donc dit à ce journaliste, à cette dame, cette demoiselle, je lui ai dit, écoutez, d'abord, rendons grâce à ceux qui ont imaginé ces mots. Ils auraient pu prendre un suffixe en ing, le kiffing, le jenning, le malaising. Bon, la malaisance, la kiffance, la gênance, ça sonne quand même bien français. Ensuite, bon, Et elle a publié ça tel quel. Après, j'étais un peu embêté. Je lui ai dit, on va avoir affaire à quatre types de personnes par rapport à ces mots-là. Il va y avoir des jeunes, et je trouve que c'est très bien, ou des gens qui ont peu de vocabulaire et qui ne se souviennent plus qu'il y a la gêne, qui a le malaise et qui spontanément vont dire la gênance, la malaisance, avec, si vous voulez, une création du mot. Après tout, c'est comme ça que les mots évoluent aussi. Et je dis, bon, ben là, c'est un peu dommage, mais enfin, pourquoi pas. Et puis, il va y en avoir qui vont l'utiliser parce que justement, le suffixe ANCE pousse à quelque chose qui est assez long. Et donc, on n'a pas une aisance passagère, mais on a une gêne passagère. Et donc, dès qu'on a ce suffixe ANCE, c'est plus long. Et donc, la gênance, ce n'est pas une petite gêne d'un moment, c'est quelque chose qui dure. Et d'où peut-être l'invention de ce suffixe, enfin, l'utilisation de ce suffixe. Je ne crois pas au hasard quand des mots s'installent et qu'il y a 10 ou 15 000 personnes qu'on retrouve sur Internet utilisant ce mot. La malaisance, de la même manière, on a un malaise passager. Un malaise, c'est un petit moment. Durable, oui, mais on est obligé de dire durable. La malaisance donne ça. Alors, je ne suis pas, pour le moment, je ne suis pas capable de les utiliser, ces mots-là. Mais après tout, ils n'ont rien de monstrueux. Il y aura peut-être un écrivain ou un chanteur qui va lancer ces mots. Et puis, peut-être que l'usage tranche de toute façon. Et c'est là où nos dictionnaires sont un peu dégreffiés de l'usage. Quand le mot entre dans la langue, eh bien, ils sont bien obligés de le traduire et de lui donner son sens. Qui fait, aujourd'hui, il n'y a pas un dictionnaire, le petit Larousse, le petit Robert, qui ne le cite pas. Bon, et après tout, on a beaucoup emprunté. Alors, il faut savoir aussi que, enfin, dans l'ouvrage, là, je prends point par point, et on va y revenir, mais il faut savoir aussi que nous, chaque fois qu'un mot est très différent de l'usage, et il nous choque. Mais dans le fond, au bout d'un moment, il nous choque plus s'il est bien constitué. Je vais donner un exemple. Le mot « vacancier », quand il est sorti, j'ai été très surpris quand je l'ai étudié, il a été très décrié. Il y a eu beaucoup de linguistes, de puristes, il leur faut des puristes, qui ont dit, mais ce mot est monstrueux, vacancier, c'est très laid, on a estivant, ça suffit bien, pourquoi créer vacancier, ça n'aura aucun succès. Bon, aujourd'hui, heureusement, le vacancier existe. On n'a pas songé qu'il y aurait des vacanciers en hiver et que ce n'était pas simplement l'été. Bon, le mot paratonnerre était considéré comme monstrueux aussi. Et alors, quand vous consultez la préface du dictionnaire de l'Académie de 1878, c'est la 7e édition, le préfacier, chaque fois que quelqu'un pronostique disons l'avenir d'un mot, presque toujours il se trompe. C'est pour ça que je fais très attention. Mais il dit le mot actualité est en train de surgir, il n'a aucune légitimité, information suffit, et c'est pour ça que nous ne l'avons pas mis dans le dictionnaire. Alors, moi, à la rentrée, alors vous voyez bien qu'actualité, aujourd'hui, les actualités, c'est même tellement installé que c'est devenu une abréviation, les actus, et comme je fais sur France Bleu tous les jours, France Bleu Île-de-France, au nom des lieux, où je raconte d'où viennent les noms de lieux, eh bien, je m'aperçois que pour la rentrée, parce qu'évidemment, ça fait 3 ans que je le fais, j'ai à peu près écumé le moindre lieu-dit, toutes les communes, puis c'est quotidien, de la région parisienne. Donc, petit à petit, on a convenu que je commençais à évoquer l'actualité, les mots de l'actualité, d'où vient, je ne sais pas, le mot danse, s'il y a un grand festival de danse, etc. Et ils m'ont dit, pour la rentrée, on est ravis, on continue, mais on va l'appeler l'étymologie des mots de l'actu. Bon, alors l'actu, on voit bien que c'est en plein dans le sujet. Alors, dans cet ouvrage, j'ai évoqué, bien entendu, des histoires comme Bendo, et il y en a énormément, si vous voulez, qui nous montrent à quel point les mots ont toute une famille insoupçonnée souvent, alors même qu'on connaît plus ou moins les mots. J'ai aussi évoqué les noms masculins qui deviennent féminins, les mots féminins qui deviennent masculins. Et puis, évidemment, je ne pouvais pas faire autrement, à un moment donné, d'évoquer la féminisation des noms de métiers, ce qui n'est pas très facile, pour être modéré et en même temps pas dire de bêtises. J'ai évoqué aussi les prononciations qui ont changé. J'en reviendrai sur ces points, puisqu'au XVIIe siècle, on comprendrait peu Louis XIV, hein, un peu comme quand on rencontre nos amis québécois pur laine, comme ils se disent. Ils nous comprennent, mais nous, on a du mal à parfois, on fait semblant d'avoir compris, mais on n'a pas tout compris. Et puis j'ai évoqué les noms propres. Alors je viens d'évoquer au nom des lieux. Alors là, j'en parle des noms propres. D'abord, comment se sont constitués nos propres noms? C'est toute une aventure. Je vais y revenir. Et comment se sont constitués les noms de lieux? Et comment on les prononce? Parce que vous voyez bien, Bruxelles, Bruxelles, Auxerre, Auxerre, il y a tout de suite Sainte-Menoux. Bon, on a tout de suite évidemment des difficultés. Alors, je vais donner juste un exemple, par exemple, d'une de ces chroniques que j'ai offertes pour un des matins sur le Kremlin-Bicêtre. Alors, le Kremlin-Bicêtre, c'est en banlieue parisienne. J'y passais souvent pour aller à mon travail. Et j'ai toujours cru, avec une bêtise insondable, que comme c'était une commune communiste, le Kremlin, ça s'expliquait sans doute par l'adhésion au Parti communiste. Je ne sais pas pourquoi, dans mon esprit, c'était ça. Puis après, quand même, on réfléchit, on se dit, oui, mais le communisme n'existe que depuis 1917, et le Kremlin-Bicêtre existe bien avant, donc ça ne peut pas être ça. Alors, quelle est l'histoire? Eh bien, en gros, un lieutenant, et c'est pour ça que c'est un... plaisant de voir des soldats de Napoléon là-dedans sur la pelouse. Un lieutenant de Napoléon, donc ému par l'empereur, après Waterloo, décide d'installer une petite auberge en banlieue sud donc de Paris. Banlieue à une lieue du banc, mais vraiment dans la campagne. Et donc il n'y avait quasiment pas une seule villa autour. Et il l'appelle au petit lieutenant du Kremlin, parce qu'il avait le souvenir. Certes, il y a eu la Bérézina, c'est-à-dire qu'on a quand même eu une campagne de Russie qui a été catastrophique sur le plan humain, pris par la neige, le froid, mais il y a eu la prise quand même du Kremlin. Et donc, il avait gardé ce symbole. Et alors voilà qu'en 1823, les cartographes ont besoin, et c'est toujours pour des raisons militaires d'ailleurs, d'avoir des points d'ancrage. Et comme cette auberge est à peu près la seule à cet endroit, on l'appelle le Kremlin. Et petit à petit, des maisons se construisent, et ça donne le Kremlin, une commune qui prend souche. Puis à côté, il y avait Jean de Pontoise, évêque de Manchester, qui avait des terres. Et comme il était évêque de Manchester, on appelait ça Manchester. Mais notre prononciation anglaise est toujours très déficiente, la mienne surtout. Et donc Manchester, ça a donné Winchester. Non, de Winchester, je me suis trompé, de Winchester. Alors Winchester, impossible à prononcer, ça a donné Winchester. Bon. Et comme toujours, quand il y a un mot proche qui est prononcé par tout le monde et que tout le monde connaît, on prend ce mot. C'était Bicêtre. Bicêtre n'existe plus, on ne le dit plus. Mais au 16e, 17e, ça voulait dire malheur. Et comme on dit, ah malheur, ah mon Dieu, ah Bicêtre, on disait. Alors d'où vient Bicêtre? Bicêtre, c'était bisextus, le latin, c'était le jour bissextile. Et par conséquent, le jour néfaste. Donc Bicêtre, malheur. Et donc Bicêtre... Winchester, les terres de Winchester, les voilà prononcées Bicêtre. Voilà au bout d'un moment que la faute se pérennise, ça devient une petite commune qui s'appelle Bicêtre. Et après, la fusion du Kremlin et de Bicêtre nous donne le Kremlin Bicêtre. Alors voilà comment, si vous voulez, les choses se font. Je vais peut-être jouer de l'analogie parce que je viens de parler de Napoléon et je viens de lire une histoire qui m'a amusé. Et qui entre dans deux chapitres là, que j'évoque, un peu avant les noms propres, j'aurais pu la glisser d'ailleurs, cette petite histoire. Une des caractéristiques de notre langue française, par rapport à la langue anglaise, et même les langues espagnoles, italiennes, c'est que nous n'avons pas d'accent tonique visible. Alors il y a bien un accent, une prosodie méditerranéenne, il y a bien une prosodie de l'Est et du Nord, mais il n'y a pas d'accent tonique. Si je vous demande où se trouve l'accent dans anticonstitutionnellement, on ne sait pas. Et quand on prend une phrase, c'est pas du tout comme en anglais, où si on rate l'accent tonique, quasiment, où on n'est pas compris, où on ne comprend pas, là, nous n'en avons pas. Et donc, notre langue est propice à énormément de fausses coupes. Ce qu'on appelle des fausses coupes, c'est quand, dans le fond, on ne sait pas où le mot commence et où le mot s'arrête, et de quel mot il s'agit. Et les fausses coupes, c'est en définitive à l'origine de quelques mots. Quand on évoque par exemple le nombril, c'est parce que tout simplement sans accent tonique sur le mot ombril et parce que nous faisons des liaisons, c'est-à-dire qu'on ne protège pas la voyelle initiale d'un mot, donc c'était un ombril, d'où ombilical, etc. Et comme on fait la liaison, c'est devenu un nombril. exactement comme les enfants parlent du névier ou d'un oiseau, c'est devenu le nombril. Ça a constitué le mot. La fausse liaison a fait le mot. Alors, il y a un mot comme lierre. C'était L'IE2RE qui est devenu le lierre. Il y a des villes aussi. La ville d'Ax, c'était, aujourd'hui, je dirais la ville de Dax, mais c'était D'AX. C'est parce qu'il y avait de l'eau, Ax, qu'on retrouve dans Aix, etc. Donc, si vous voulez, ces fausses coupes ont créé des mots dans notre langue. Mais cela dit, on voit bien que sans créer de mots, elle continue aussi de nous pousser parfois à des erreurs. Quand je dis « il parle d'une autre », on ne sait pas si c'est d'une autre ou bien du nôtre. Et vous avez des pages entières sur Internet propices aux jeux. D'ailleurs, j'ai un chapitre entier sur les jeux de mots, parce que les jeux de mots très français, contrepétris et de ce type, sont tout à fait liés à cette caractéristique. Eh bien, vous avez des pages entières sur « on ne dit pas un potager, mais un ami qui a pris de l'âge ». On ne dit pas un abricotier, mais une petite maison au bord de la plage. Et donc, il y en a toute une série comme ça. Alors, on ne dit pas une mitrailleuse, on dit un insecte moqueur. Alors, évidemment, la mite qui est railleuse. Et donc, je les avais notés tout à l'heure, je ne sais pas si j'en ai d'autres encore, mais on ne dit pas un bouclier, mais le mari de la chèvre qui est attaché. On ne dit pas... Alors, après, ça va un peu plus loin. Parce qu'on ne dit pas le pou rit, mais la lente rigole. Bon, là, c'est quand même un peu poussé. Et on ne va pas dire la maîtresse d'école, mais la maîtresse prend l'avion. Bon, donc si vous voulez, c'est des jeux de mots, évidemment, d'enfants, un peu style carambar, mais qui, dans le fond, sont tout à fait significatifs. Alors, j'expliquais ça il y a quelques semaines à la radio. Et il y avait, comme vous savez, quand vous êtes à la radio, vous êtes là dans le studio, il y a le bouton rouge qui s'allume, si vous savez que c'est en direct. Puis de l'autre côté, il y a le technicien qui fait des signes cabalistiques, celui qui anime 2 secondes, 3 secondes. C'est comme ça que vous êtes coupé en pleine phrase parce qu'il y a la publicité qui va arriver. Et là, l'émission se déroule très bien. Et à la fin, le technicien, l'ingénieur du son, me dit, c'est bien, on a été dans les temps, comme disent les poissons. Il avait tout à fait compris qu'on était dans les temps, effectivement. Et ça, c'est notre langue qui se prête à ça et qui a quelque chose de merveilleux. Alors, c'est tellement vrai, je rebondis, je vais vous laisser poser les questions quand même.
on est là pour vous écouter.
Mais c'est tellement vrai. Qu'il y a ce qu'on appelle, avant de faire le livre, je ne savais pas le mot, hein, le cacan-faton. Alors le cacan-faton, je savais que ça existait, mais je ne savais pas le mot. Et en fait, ça vient du grec, c'est presque le même son, c'est ça que ça veut dire en gros. Et le cacan-faton, c'est ces écrivains, alors on pense à Corneille, on pense à Hugo, qui écrivent un superbe vers et ne se rend pas compte qu'on peut le comprendre autrement. Et le plus connu était tiré de Polyeucte et qui a fait les gorges chaudes de beaucoup de collégiens. J'en ai fait partie, où il disait, il y a un vers de Polyeucte, tu sais, et le désir s'accroît quand les faits se reculent. Mais bon, évidemment, prononcer les fesses se reculent, c'était un délice. Et donc, généralement, on n'étudie jamais Polyeucte à cause de ça. Et il y en avait une autre qui me revient à l'esprit, c'est de Victor Hugo, qui à un moment donné évoque un des personnages et son crâne était ouvert. En fait, c'est V-E-R-T, c'est la couleur. Mais bon, son crâne était ouvert, c'était ouvert. La liaison est là pour nous mettre dans l'embarras. Et d'ailleurs, dans la même, tout à l'heure, j'évoquais Napoléon. Alors, c'est des blagues qui circulent, hein, donc on en trouve facilement. Mais voyez à quel point elle joue sur cette fausse coupe. Et je crois que je suis un des rares à l'avoir expliqué. Parce qu'on oppose souvent l'humour anglais et les jeux de mots français, mais c'est ça, c'est ces fausses coupes, cette facilité d'homonymie qui est très difficile à distinguer dans la phrase. Et on raconte cette histoire qui est un peu légère, mais c'est Napoléon, l'empereur, Waterloo, ça y est, il s'échoue, il entre dans une auberge et il dit, il dit à l'aubergiste, nous sommes vaincus. Et l'aubergiste dit, mais j'ai que 19 chaises. Et donc, on a comme ça beaucoup de choses qui manquent pas de charme. Et nos humoristes en jouent beaucoup. Donc, ça a quelque chose de plaisance. Il y en a beaucoup. On a plusieurs difficultés. Excusez-moi. Il y a l'homonymie, je viens de le voir, et là, les fausses coupes. Mais il y a aussi la polysémie, c'est un mot un peu barbare, mais c'est l'essence très différente du mot nature, par exemple, hein, nature physique, nature chimique, la nature verdoyante. Il y a 40 sens chez Littré pour donner le mot nature. Mais beaucoup de nos mots sont comme ça polysémiques. On peut en prendre comme ça qui sont particuliers et qui m'échappent à l'instant, c'est pour ça que j'essaie de combler, mais que je vais retrouver. Oui, c'est le mot facteur. Alors voilà, cette plaisanterie aussi que j'ai entendue, ma femme l'a entendue 10 fois, c'est pour ça qu'elle est en train de dire mais elle me plaît cette histoire. C'est un monsieur qui a la chance, si je puis dire, d'avoir, son épouse a des jumeaux. La maman est très très heureuse d'avoir des jumeaux, toute la famille est très heureuse, bon. Mais le mari est excessivement jaloux, et il réfléchit, il se dit, dans ma famille, il n'y a jamais eu de jumeaux, bon. Dans la famille de ma femme, il n'y a jamais eu de jumeaux non plus, comment ça se fait qu'il y a des jumeaux, c'est pas normal tout ça. Il est tellement jaloux et déplacé qu'il amène son épouse, ils vont voir le gynécologue. Et alors, le mari explique, vous savez, on a des jumeaux, mais il n'y en a jamais eu dans la famille de ma femme, il n'y en a jamais eu dans ma famille. Alors, comment ça peut se faire? Comment on peut avoir des jumeaux? Et le médecin dit, bah, écoutez, pour avoir des jumeaux, il y a 3 facteurs. J'en étais sûr! Et dans le même esprit, puisqu'on a évoqué les mots grecs et latins, alors après j'arrête parce qu'on serait graveleux. Mais c'est une dame qui a quelques problèmes de santé, qui va chez le gynécologue, une dame de petite vertu, et le gynécologue lui dit « Madame, vous avez des gonocoques ». Et elle dit mais d'où ça vient ça, gonocoque? Et le médecin dit « Mais ça vient du grec, madame ». « J'en étais sûr !» Donc, si vous voulez, voilà comment la variété des sens, cette polysémie, fait que, d'une certaine façon, notre langue se prête au jeu de mots. Et c'est pour ça que j'ai évoqué tout un chapitre où je signale comment on prononce les mots. Naguère, on disait le plaisir, le désir, on prononce, c'est pas le R, le loisir, le désir, on le disait. On disait, un des premiers secrets des mots, c'est dans le fond que on disait les secrets, on ne disait pas les secrets. Mais repérez qu'on dit toujours second, hein, et c'est pourtant un C. Donc c'était une pratique, les secrets, et ceux qui s'appellent Claude, ou d'ailleurs j'ai signé tout à l'heure un livre à un monsieur qui s'appelait Claude, eh bien ça se disait Glaude, et on le retrouve dans un film célèbre, voilà, avec le Glaude. Donc la prononciation était très différente, on ne prononçait généralement pas le R de sûr. Alors comment on sait tout ça? C'est tout simplement par les poèmes un peu populaires, on voit la rime et on s'aperçoit à quel point tout cela a changé. Alors après, il y a... Puisque j'ai évoqué les noms propres, je souligne aussi comment se constituent les noms propres. Et les noms propres, c'est une belle aventure, parce que, en vérité, on n'en avait pas besoin au départ, on avait des surnoms. Et donc, si on prend les Romains, il y a bien un nom de la famille, Caius, Julius, et puis il y a le surnom, c'est César. Et c'est toujours étonnant de se dire que César, dans le fond, pour tous les Romains, plus pour nous. Mais César, ça voulait dire celui qui est issu d'une incision, de ce qu'on appelle une césarienne aujourd'hui. Donc c'était un surnom. Chacun le savait. Quand on disait Claudius, c'était le boiteux. On avait ce sens-là. Bon, Claudican en vient. Hein, donc aujourd'hui, c'est perdu. Mais alors, ça a été ça pour les Romains. Ça a été ça aussi pour les Gaulois. Les Gaulois, Vercingétorix, c'est le chef... donc des soldats de l'armée, c'est à peu près ce que Rix veut dire chef, hein, Rex comme en latin, Epérodorix c'était le chef des cavaliers, et donc on a à chaque fois un sens précis pour les mots gaulois, donc qui évidemment est très intéressant. Puis sont arrivés les Germains, mais entre temps il y a eu la christianisation de la Gaule, et par conséquent on a donné un prénom aux personnes. Ce prénom, alors nous, c'est moi qui dis un prénom, un nom de baptême. Un nom de baptême, et on n'a pas hésité à donner des noms de Germains, parce que souvent on donne des noms à succès. Donc les chefs étaient Germains, donc il y a eu énormément. Alors si à chaque fois j'en lis la liste, puisque j'ai essayé d'être souvent exhaustif dans le livre. Mais je vais vous demander juste de me tenir une seconde. Mais je vais y arriver. J'ai évidemment perdu la page. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais de mémoire, quand vous appelez Richard, Germain, bien sûr, Louis, Albert, tous ces noms-là sont des noms germaniques qui avaient du sens. Hubert, et donc Ber, par exemple, voulait dire l'ours, donc l'ours fort. Hard voulait dire ce qui était dur et fort. Donc on a toute une série de noms qui ont été créés. Et puis arrive en gros, le 12e et 13e siècle. Que se passe-t-il dans le village? Eh bien, il n'y a pas un seul Jean ou Claude ou autre prénom masculin, puisque c'était surtout les prénoms masculins qui sont après sont devenus héréditaires. Il faut un surnom. Il y en a cinq des gens. Donc il y a Jean Dupont qui habite près du pont. Il y a Jean Dubois qui a pris près du bois. Jean Dupuis de la rivière, etc. Bon, alors il n'y a pas que les noms de lieux. Il y a les noms de métiers. Jean Boulanger. Il y a beaucoup de boulangers, boucher, le boucher, mais vous avez des noms qui ont disparu aussi, comme le sueur. Sueur, c'est pas qu'il. Parfois, on imagine la sueur, mais c'est pas ça, c'était suture, c'était le couturier. Hein, et donc, on a toute une série comme ça de surnoms qui sont donnés. Et les surnoms, c'est parfois des sobriquets. Alors, parfois physiques, d'abord. Jean le Grand, mais attention, le Grand pouvait être petit. Jean le Petit, il pouvait être le Grand. Je vois bien qu'un technicien qui, tous les matins, là, à la radio, on l'appelle le petit, mais il fait plus de 2 mètres, quasiment. Donc, c'est un peu par ce briquet amical. Donc, si vous voulez, il y a eu... Alors, quand c'est le blond, le brun, le roux, bon, en principe, ça, c'est juste. Mais après, vous avez toute une série de sobriquets sur, finalement, la fiabilité, l'amitié, donc Jean le cher, Jean le riche, Jean, etc. Toute une série de surnoms qui sont donnés. Or, en anglais, rappelez-vous, c'est un piège dans lequel je suis tombé une ou deux fois. Quand on vous demande votre surname, c'est pas le surnom, hein, c'est le nom propre. Parce que c'est l'ex-surname, enfin surnom que nous avions, qui est devenu alors héréditaire. C'est lui qui a été héréditaire. Quand ma femme me fait des signes, c'est que je suis en train de dépasser l'horreur, donc je vais vous laisser poser des questions.
Alors en fait, on arrive à la fin de cette conférence, parce que là, il est bientôt 5 heures, mais vous auriez encore, j'imagine bien, beaucoup, beaucoup de choses à dire, parce qu'on n'a même pas évoqué la question des néologismes aussi, qui était une question très, très intéressante. Mais en fait, je vais indiquer, bien sûr, aux personnes qui nous écoutent, que pour en savoir plus sur les secrets des mots, vous pouvez bien sûr aller voir Jean Pruvot sous la bulle du livre, et il vous parlera encore de tout ce qu'il n'a pas
on
eu.
Va continuer au
l'occasion,
stand,
voilà.
Je vous promets de répondre à toutes
tout ce qu'il
vos
n'a
questions,
pas eu l'occasion de nous raconter encore sur les mots.
On va terminer sur une chose drôle, mais elle n'est pas tellement dissible. Mais j'ai évoqué aussi les mots croisés et les contrepétries qui font partie vraiment. Alors, contrepétrie, elle serait difficile en anglais. Mais nous, comme on n'accentue pas une syllabe et que donc c'est la même valeur de chaque syllabe, donc la contrepétrie est très présente. Alors, des contrepétries, quand vous avez désarçonné par les amas de patente, donc évidemment, ça vient de les appâts de ma tante. Mais c'est sale de mentir. Bon, parfois, j'en donne que des propres. C'est mal de sentir. Mais il y en a quelques-unes qui m'agacent parfois un peu. Alors, chez des hommes politiques, ils en ont de nombreuses. Mais il y en a. Ceux qui sont passionnés par la contrepétrie en voient partout. Là où nous, on ne les voit pas. Et donc, je suis allé les chercher aussi, parce que je me suis dit, mais il faut vraiment être vicieux. Quand vous avez un magasin de vin qui s'appelle La Bonne Cave, ça donne quoi? Ça donne La Conne Bave. Bon, c'est pas terrible quand même. Et quand vous avez Le Bon Secours, je suis même obligé de les noter parce que c'est Le Con se bourre. Donc, si vous voulez, parfois, quand ils nous donnent des contrepétries, on est très coincé par ces gens. Je finis juste, et puis c'est terminé.
Oui, oui.
Ça vous concerne, parce que vous êtes une formidable journaliste, on a pu discuter avec. Mais j'aime bien les mots croisés aussi. Ils nous donnent un autre côté poétique, comme la science-fiction nous le donne, et la fantaisie. Du côté des mots croisés, par exemple, « fréquente le palais, menace la couronne ». le caramel qui menace la couronne. Et puis pour journaliste, j'aime beaucoup celui-là, plume de canard. Bon, c'est assez joli pour le mot journaliste et ça peut être une très très belle plume d'un très très bon canard. Voilà, merci et merci à vous.
C'est juste une petite remarque de fin. C'est très intéressant tout ce que vous avez dit, mais j'ai juste entendu l'expression « une femme de petite vertu ». Et on oublie que les mots présentent des visions du monde et on n'aurait pas dit « un homme de petite vertu ». Et donc ça a heurté mes oreilles. Et je voulais juste mettre un point final en disant que oui, les mots...
Ils sont terribles. Vous me poussez à évoquer les charades qui ont disparu. Et la charade était très en vogue. Et elle marquait une sorte de machisme qui était déplaisant. Par exemple, pour le mot vertu, on disait la charade suivante : mon premier est dégoûtant. Mon second est plus aimable que vous. Mon tout, je le clame tout haut, mais j'enrage tout bas. Et c'était la vertu. Vert, évidemment, dégoûtant, tu, plus aimable que vous. Et puis la vertu, mais ça peut marcher pour un homme ou pour une femme. Non, vous avez bien fait. Merci beaucoup.